histoire.
Guerre. Musée. Résistance. Vous écoutez
Voyage à Londres.
Découvrir la Seconde Guerre mondiale.
Sur Radio Campus
93.3.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre émission préférée sur Radio Campus. Aujourd'hui, moi, Alexandre, animateur, je vais vous présenter l'émission de la classe 3e Pavin du Collège Saint-Ecle, intitulée Voyage à Londres, découvrir la Seconde Guerre mondiale. Mes camarades vont vous parler de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale à travers les lieux que nous avons visités. Je laisse la parole à Baptiste et Madeleine qui vont vous conduire sur les pas du général de Gaulle et de la Résistance.
Sur les pas du général de Gaulle.
Hello everybody. As soon as we arrived in England, we found Christian, a guide, who introduced us to the life of General de Gaulle during World War II.
Cette visite a débuté sur la place où il habitait au début de la guerre.
Le guide nous a d'abord expliqué le contexte de la Seconde Guerre mondiale en nous donnant des dates importantes de sa vie, par exemple le jour où les Allemands sont arrivés en France, le 13 mai 1940.
Oui, en effet. Et il nous a aussi donné la date où le général de Gaulle est devenu ministre, le 6 juin 1940. Après cela, un de nos camarades a lu l'appel du 18 juin. C'est le fameux discours du général de Gaulle sur la BBC, une radio de Londres qui appelle les Français à la résistance. En voici un extrait.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
Christian nous a expliqué que, à partir de cet appel, le général de Gaulle a formé la résistance française et a invité les Français à le rejoindre pour organiser la libération, car il pensait qu'il y avait encore des chances de gagner.
Ensuite, nous sommes passés dans la Dunn Street Mews, où on a pu voir une ancienne station de métro qui a servi de quartier général au Premier ministre anglais, Winston Churchill.
Pour contextualiser, Churchill est devenu Premier ministre le 10 mai 1940 et le 13 mai 1940, il a prononcé son célèbre discours « I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat ».
Notre visite a continué dans Green Park, où notre guide nous a parlé du Blitz, le nom donné au bombardement de Londres qui a duré 9 mois, de septembre 1940 à mai 1941, le temps d'une année scolaire. Ce mot signifie en français « éclair ». Durant cette période, c'est plus de 600 bombardiers qui ont détruit la capitale anglaise.
Oui, je me souviens. Il nous a même expliqué que presque tous les enfants londoniens sont partis à la campagne pour leur sécurité. Ils n'étaient munis que de masques à gaz et de casques anti-bombardement, n'est-ce pas ?
Oui, t'as raison. Plus de 38 millions de masques ont été fabriqués pour les habitants. Le Blitz a fait environ 20 000 morts, ce qui fait une période terrible.
Bien, revenons-en au général de Gaulle. Après avoir fait son appel, le 18 juin, très peu de personnes l'ont rejoint. Pour réunir plus de monde, il a refait des discours, notamment le 22 juin. Le 28 juin, il est reconnu comme le représentant de la France libre par Churchill.
Christian nous a ensuite guidés vers la place Saint-James. C'est ici qu'avait lieu le siège de la BCRA, les services secrets de la Résistance. D'ici, il pouvait lancer des missions de recherche, comme l'opération Bilting, qui surveillait les radars allemands.
Notre guide nous a expliqué qu'une radio de codage pour piéger les Allemands pouvait peser jusqu'à 30 kilos. Après cela, nous avons découvert le quartier général de la France libre. Il y avait environ 400 personnes qui y travaillaient. Juste devant, nous avons vu une statue.
C'était la statue du général de Gaulle. Il était au garde à vue, dans l'uniforme d'un général de brigade. Cette statue a été dévoilée le 23 juin 1993 par la reine-mère Elisabeth. Elle représente l'union entre la France et l'Angleterre.
Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt.
Pour rester dans le thème, je vous propose d'écouter le chant des partisans, qui était l'hymne de la résistance française pendant l'occupation de l'Allemagne nazie. À tout de suite.
Thank you.
le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Vous êtes toujours sur Radio Campus. Nous venons d'écouter le chant des partisans. Pendant notre séjour à Londres, nous avons visité de nombreux musées, comme l'Imperial War Museum. Quentin et Anaël vont tout de suite vous en dire plus sur ce musée.
L'Imperial War Museum. Anaël et moi-même, Quentin, allons vous parler de l'Imperial War Museum de Londres, un musée qui retrace l'histoire des conflits impliquant le Royaume-Uni et le Commonwealth depuis la Première Guerre mondiale. Il est l'un des musées les plus visités de Grande-Bretagne, avec près de 860 000 visiteurs par an. Mais alors Anaël, pourquoi l'Imperial War Museum a-t-il été créé ?
L'Imperial War Museum, souvent abrégé en IWM, a été fondé en 1917 sous le règne de George V. Alors que la Première Guerre mondiale faisait encore rage. À son ouverture officielle en 1920, le musée était situé au Crystal Palace, avant d'être déplacé en 1936 à Lambeth Road. À l'origine, il devait simplement rassembler des archives et des objets pour témoigner du rôle joué par la Grande-Bretagne dans le conflit. Mais avec le temps, le musée a évolué pour couvrir d'autres guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et les conflits plus récents comme l'Afghanistan et l'Irak.
Comment a-t-il évolué depuis sa création en 1917 ?
Aujourd'hui, l'Imperial War Museum possède 5 sites à travers le Royaume-Uni. Mais le plus important et le plus visité est celui de Londres, situé dans le quartier de Lambeth, au sud de la Tamise. Ce qui l'en distingue d'un simple musée militaire, c'est qu'il ne se contente pas de montrer des armes ou des stratégies de guerre, il s'intéresse aussi aux conséquences humaines des conflits, sur les soldats comme sur les civils. De plus, il concentre près de 10 millions d'objets qui sont organisés dans 8 départements, comme le département des documents, artistiques, des expositions et armes à feu, des livres imprimés, des archives cinématographiques, des archives photographiques, des archives sonores, et le département de l'Holocauste et de l'histoire du génocide.
Le musée est installé dans un ancien hôpital psychiatrique nommé Bethlehem Royal Hospital, ce qui lui donne une architecture imposante avec une entrée marquée par 2 énormes canons navals.
Mais alors Quentin, quels objets emblématiques sont présentés dans ce musée ?
Dans le grand hall principal, par exemple, plusieurs pièces spectaculaires attirent l'attention comme un Spitfire, l'un des avions de chasse les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, suspendu au plafond. Un char Mark V datant de la Première Guerre mondiale qui montre à quel point ces machines étaient massives et rudimentaires à l'époque. Une bombe nucléaire désactivée, rappelant la menace permanente qui a pesé sur le monde pendant la guerre froide. Mais ce n'est pas seulement un musée rempli d'objets. Dès que l'on en franchit les portes, on est immédiatement plongé dans une ambiance impressionnante. Il y a des témoignages audio de vétérans, des films d'archives et même des reconstitutions qui permettent de mieux comprendre la réalité des conflits.
L'Imperial War Museum est divisé en plusieurs grandes galeries, chacune consacrée à une période de l'histoire militaire. Voici les principales. La Première Guerre mondiale, qui est particulièrement marquante car elle présente une reconstitution grandeur nature des tranchées.
Quelles sont les caractéristiques de la reconstitution des tranchées présentées dans la galerie de la Première Guerre mondiale ?
On peut y voir des armes, des uniformes, mais aussi des lettres de soldats qui montrent à quel point les conditions de vie étaient difficiles.
Quel type de contenu est proposé dans la section consacrée à la Seconde Guerre mondiale ? Et comment les témoignages des civils enrichissent-ils cette exposition ?
la Seconde Guerre mondiale, on peut y trouver des avions, des véhicules militaires et des documents stratégiques. Une section est consacrée au bombardement sur Londres, donc le Blitz, avec des témoignages de civils qui ont vécu sous les bombes. De plus, il y a, comme dit précédemment, une bombe nucléaire désactivée et la maquette d'un corps qui a subi les radiations de la bombe nucléaire. Mais aussi l'Holocauste, c'est une exposition qui est très poignante. À travers des objets, des vidéos et des témoignages de survivants, elle raconte la persécution des Juifs et des Tziganes par les nazis.
En quoi l'exposition sur l'Holocauste se distingue-t-elle des autres expositions du musée? Et quelle est son importance en termes de devoir de mémoire?
Elle permet de comprendre comment un génocide a pu se produire en Europe et l'importance du devoir de mémoire. Ainsi que les conflits modernes, cette partie du musée couvre les guerres plus récentes comme la guerre froide, la guerre des Malouines et les interventions britanniques en Irak et en Afghanistan. On peut écouter des témoignages de soldats, voir des équipements militaires modernes et comprendre les enjeux géopolitiques de ces conflits.
Je vous remercie pour ces explications détaillées. Durant notre séjour à Londres, nous n'avons pas seulement visité des musées, nous avons aussi eu l'occasion de monter à bord du HMS Belfast, un navire de guerre anglais. Nous allons écouter Enzo et Thibault qui vont vous présenter le Belfast.
À la découverte du HMS Belfast.
Avec mon ami Enzo, nous allons vous présenter le HMS Belfast.
Tout d'abord, le HMS Belfast est un navire de guerre construit par les Britanniques. Il a servi pour la Seconde Guerre mondiale et le débarquement de Normandie. Il est désormais devenu un musée pour les touristes qui veulent en savoir plus et le découvrir. Alors Thibault, quelle est l'histoire de ce navire?
Le HMS Belfast a été construit en décembre 1936. Il a été créé pour cibler et contrer les navires allemands, mais aussi pour les soutenir les troupes françaises. Il a été une légende du débarquement de Normandie. Du coup, pourquoi l'abréviation HMS?
HMS est l'abréviation qui précède tous les navires britanniques et qui ont servi pour la Seconde Guerre mondiale. Elle signifie His Majesty's Ship, qui veut dire en français le navire de Sa Majesté. Alors, tu as mieux compris?
Oui, c'est plus clair pour moi.
Et j'ai une question moi aussi du coup. Comment est constitué ce bateau?
Dans le HMS Belfast, il y a plusieurs salles, comme un coiffeur, un dentiste et, plus étonnant, encore une chapelle. Mais les salles les plus importantes sont l'infirmerie et les salles de commandement. En effet, l'infirmerie a servi aux soldats blessés de se faire soigner et pouvoir se reposer. Les salles de commandement ont permis de contrôler les radios pour mieux commanditer les attaques. Mais alors, pourquoi a-t-il été conservé et pas détruit?
Le HMS Belfast a été retiré du service en 1963. Après avoir survécu à deux guerres, le Belfast devait encore être sauvé de la démolition. Aucun navire de guerre britannique n'avait été encore préservé par le gouvernement. Du coup, il est devenu un musée. J'ai une dernière question. Pourquoi le HMS est dans la Tamise?
Le HMS Belfast est un croiseur léger de classe Town construit pour la Royal Navy. Il est aujourd'hui amarré en permanence sur la Tamise à Londres comme un navire musée et exploité par l'Imperial War Museum. Pour résumer, le HMS Belfast est un navire de guerre créé par les Britanniques pour la Seconde Guerre mondiale. Il a plusieurs salles, notamment une infirmerie pour les soldats blessés. Le HMS Belfast a servi lors du débarquement de Normandie.
Le navire est désormais devenu un musée incontournable posé au bord de la Tamise. Il est un des lieux historiques de Londres.
À présent que vous en savez plus sur ce navire, Alban et Louise vont vous permettre de plonger au cœur des stratégies employées par les Alliés pour tromper leur ennemi.
Fortitude, les leurs dans la Seconde Guerre mondiale.
Merci Alexandre. Bonjour, aujourd'hui avec Louise, nous allons vous présenter l'opération Fortitude. Mais d'abord, pourrais-tu nous présenter le contexte de cette opération?
Bien sûr, Alban. Alors, avant le D-Day, pour empêcher les Allemands de concentrer leurs troupes en Normandie, la désinformation est placée au cœur de la stratégie alliée. Tromper l'ennemi sur le lieu, le jour et l'heure du débarquement était très important pour l'effet de surprise. C'était une des clés d'Overlord. Mais d'ailleurs, n'y avait-il pas une première opération prévue avant Fortitude?
Si, tout à fait. Après avoir choisi le débarquement en Normandie en août 1943, les Alliés retiennent le Pas-de-Calais comme un leurre. L'opération Fortitude, qui avait été lancée en novembre 1943, fut précédée d'un scénario abandonné, Bodyguard. Mais le rôle de Fortitude est immense. Elle doit faire croire au haut commandement allemand que l'effort des Alliés sera dirigé sur le nord de la France et doit maintenir sur le flou sur la date du débarquement. Elle a aussi pour but de fixer durablement le maximum de forces aériennes et terrestres allemandes dans le Pas-de-Calais pour le détourner de la Normandie. J'ai appris que Fortitude était composée de deux parties. Voudrais-tu nous expliquer lesquelles?
Si tu veux, comme tu l'as si bien dit, Fortitude comporte deux parties. Fortitude Nord et Fortitude Sud. Prenons tout d'abord Fortitude Nord. Avec la coopération militaire de Moscou, elle prévoit un débarquement le 1er mai en Norvège, dans la région de Trondheim. C'est l'opération Sky. Fortitude Nord organise aussi une attaque vers le Danemark. Pour cela, une fantomatique 4e armée britannique, rassemblant 350 000 hommes, stationne à Édimbourg et en Irlande du Nord sous le commandement fictif du lieutenant-général Thorne. De faux trafics radio et de vrais agents doubles déployés en Norvège relaient cette intoxication. Pour faire croire aux Allemands que l'offensive qui avait été prévue dans les Balkans ne sera pas déclenchée avant l'été 1944, les Soviétiques simulent des attaques navales dans le nord de la Scandinavie, tout en organisant des concentrations de bâtiments et de reconnaissances aériennes et navales sur les côtes de la Norvège. Dans cette opération d'intoxication menée par les services de renseignement alliés, Fortitude Sud reste la pièce maîtresse vers laquelle porte l'effort principal.
Celle-ci est ma partie préférée.
Veux-tu nous la présenter ?
Oui, avec plaisir. L'objectif de Fortitude Sud est de laisser croire aux Allemands que, une fois lancé en Normandie, le débarquement ne devrait présenter qu'une diversion de la véritable attaque, portée ultérieurement plus au nord. C'est dans ce cadre que le lieutenant-général George Patton est chargé d'un premier groupe d'armée américaine fantôme, fort de 12 divisions positionnées dans le sud-est de l'Angleterre. Il y a alors des concentrations de troupes, des dépôts de munitions, des parcs de blindés et de matériel, un dock pétrolier factice dans le port de Douvres, des véhicules gonflables, des avions en bois et d'autres infrastructures fabriquées, comme un décor de Hollywood. Le succès de l'opération codée Quicksilver repose également sur un réseau d'une cinquantaine d'agents doubles et d'agents allemands retournés travailler pour le renseignement britannique. Ils doivent intoxiquer encore plus l'adversaire sur les véritables intentions des Alliés. De plus, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Alliés envoyèrent dans le Pas-de-Calais, et plus précisément dans les environs d'Yvetot de Saint-Lô, des poupées parachutes en tissu remplies d'explosifs et de systèmes qui produisent des imitations de bruits de tir. C'est l'opération Titanic. En même temps, une offensive aérienne est également simulée dans le Pas-de-Calais. Des avions larguent des bandelettes d'aluminium sur la mer qui apparaissent sur les radars allemands comme des traces laissées par les bombardiers. Tout cela est censé simuler une attaque pour détourner l'attention portée sur la Normandie. Mais d'autres dispositifs sont mis en place dans l'opération Fortitude.
Absolument, il y a par exemple de faux messages codés diffusés à la radio. En effet, 18 000 messages vont être écoutés par les Allemands. De plus, de faux articles sont aussi créés pour faire croire que des mariages sont organisés à Douvres entre des jeunes filles anglaises et des hommes américains pour expliquer l'agitation. Il faut égarer les Allemands sur les opérations alliées en Méditerranée, attaques sur les Balkans, la Crète et le Péloponnèse, l'Istrie et la Dalmatie, pour que l'ennemi maintienne ses troupes sur le pourtour méditerranéen. Pour simuler une opération en Grèce, les Alliés concentrent des troupes en Algérie avec de fausses péniches de débarquement, mais aussi de véritables exercices amphibies exécutés au large du 9 au 11 juin 1944. Les Alliés poussent enfin très loin leur art de la persuasion et de la mystification en montant, à la fin du mois de mai 1944, l'opération Copperhead. Elle consiste à faire apparaître sous le nez des espions allemands un sosie du général Montgomery en visite à Gibraltar et à Alger. Et ce, pour faire croire à une attaque prochaine des Alliés sur la côte méditerranéenne. Ce sosie s'appelait en réalité Clifton James. Et l'opération Fortitude a même servi après le débarquement, n'est-ce pas Alban ?
Oui, en effet. L'opération Fortitude fut maintenue au-delà du débarquement le 6 juin 1944. Elle fonctionnera si bien que les Allemands croiront longtemps qu'un second débarquement, le principal, aura lieu à Calais en juillet 1944, avec une armée deux fois plus nombreuse que celle qui allait découvrir le jour J. Merci beaucoup pour votre attention.
Oui, merci beaucoup.
Comme vous l'avez compris, toutes les ruses possibles étaient utilisées. Nous allons faire une pause musicale avec « All You Need Is Love ».
You can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.
Très bien, je vous laisse en compagnie d'Evan et Mathis qui vont vous raconter notre visite du musée du D-Day.
Dans les traces historiques du musée du D-Day.
Le musée The D-Day Story, situé à Portsmouth au sud du Royaume-Uni, est le principal musée britannique consacré au débarquement de Normandie le 6 juin 1944, un événement décisif majeur de la Seconde Guerre mondiale. Il est inauguré en 1984. Il est entièrement rénové en 2018.
Dis-moi, Evan, comment est réparti le musée ?
Le musée raconte le débarquement à travers des expositions interactives et des témoignages authentiques de ceux qui l'ont vécu. Il propose une approche immersive et pédagogique pour mieux comprendre les enjeux et le déroulement du jour J en étant divisé en trois parties. La première est destinée à la préparation de cette opération, la seconde est consacrée au débarquement et enfin la dernière aux conséquences de cette bataille. Mais Mathis, peux-tu nous expliquer les éléments de notre visite ?
Lors de notre visite, nous avons aperçu l'un des éléments les plus impressionnants, l'Overlord Embroidery, une immense tapisserie de 83 mètres de long inspirée de la célèbre tapisserie de Bayeux. Réalisée par la Royal School of Needlework, elle illustre en 34 panneaux les étapes majeures du débarquement et de la bataille de Normandie. Son objectif est de rendre hommage aux soldats alliés en mettant en lumière leur courage et les sacrifices qu'ils ont dû faire, mais aussi les efforts des habitants pour créer et confectionner des engins malgré le Blitz ayant eu lieu de septembre 1940 à mai 1941. Cette œuvre textile unique est un véritable témoignage artistique et historique de l'événement. Cette tapisserie nous montre les défis logistiques de cette préparation et pendant le débarquement.
Mais ce musée ne contient qu'une seule grande œuvre ?
Non, pas du tout. Ensuite, il y a le Landing Craft Tank 7074. Ce navire de débarquement est créé exclusivement pour cette bataille en transportant uniquement des chars et des véhicules blindés sur les plages normandes lors de l'opération Overlord. Il s'agit du dernier exemplaire survivant de ce type. Restauré avec précaution, il est aujourd'hui exposé à l'extérieur du musée, permettant aux visiteurs d'admirer ce vestige unique et de mieux appréhender les défis logistiques auxquels les Alliés ont été confrontés. Et Evan, est-ce que tu peux me dire, n'y a-t-il que ces œuvres dans le musée ?
Non, le musée comporte aussi de nombreuses œuvres et traces historiques comme des vêtements, des tanks, des armes allant des mitrailleuses aux mitraillettes, une mine marine désamorcée et des maquettes qui représentent des lignes de front sur les plages de Normandie. Mais il y a aussi des planisphères et d'autres choses encore. Merci de nous avoir écoutés.
Maintenant que vous savez tout sur le D-Day, vous allez écouter Oscar et Marco qui vont vous détailler l'opération Overlord.
Le mythique débarquement de Normandie.
Merci Alexandre et bonjour à tous. Je m'appelle Oscar et aujourd'hui, ensemble, nous allons nous pencher plus précisément sur le sujet de l'opération Overlord, ce débarquement mythique qui a permis aux Alliés de libérer la France de l'Allemagne nazie. Pour vous expliquer plus précisément le débarquement de Normandie, mon camarade Marco,
bonjour,
vous aidera tout comme moi à mieux comprendre ce tournant de la Seconde Guerre mondiale. nous allons vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur l'opération Overlord. Tout d'abord, Marco, peux-tu nous expliquer en quoi consiste l'opération Overlord ?
L'opération Overlord, lancée le 6 juin 1944, est le nom donné de la bataille de Normandie par les Anglais. Cette bataille est une opération militaire d'envergure mondiale qui marque un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Elle consiste en une invasion navale massive des forces alliées sur les plages de Normandie, dans le but de libérer l'Europe de l'occupation allemande. Cet événement, connu sous le nom de Jour J ou D-Day, symbolise la coopération internationale face à la tyrannie et représente un moment clé dans la lutte contre le régime nazi.
Mais alors, pourquoi le débarquement s'est-il déroulé en Normandie et pourquoi le 6 juin 1944 ?
Tout d'abord en Normandie, car c'était un lieu proche de l'Angleterre et non soupçonné par les nazis, contrairement au Pas-de-Calais. Ensuite, le 6 juin, car il faut savoir qu'au départ, cette opération devait se dérouler le 1er mai. Mais à cause des conditions météorologiques désastreuses et les marées hautes et marées basses, le débarquement a été déplacé jusqu'au 6 juin 1944.
Comment s'est organisé le débarquement ?
Ce débarquement fut méticuleusement orchestré. Minuit 5, bombardement entre Le Havre et Cherbourg des troupes allemandes. Minuit 15, largage des parachutistes éclaireurs. 1h du matin, largage des parachutistes de divisions britanniques et américaines. 3h20, atterrissage des planeurs avec les équipements lourds des divisions aéroportées. 6h, début du bombardement naval du littoral normand. 6h30, débarquement des troupes américaines sur les plages. Et 7h30, débarquement des troupes canadiennes et britanniques sur les plages.
Marco, peux-tu nous dire s'il y a le nom d'une personne qu'il faut retenir durant cette opération ?
Oui, il faut retenir le nom du général Eisenhower. L'opération Overlord nécessite une organisation méticuleuse et un effort logistique sans précédent. Sous le commandement du général Dwight D. Eisenhower, les Alliés mobilisent des millions de soldats, des milliers de navires et d'avions, ainsi que des quantités considérables d'équipements militaires sur le littoral normand.
Mais est-ce que la résistance a joué un rôle dans cette opération ? Et est-ce que ce rôle était important ?
Oui, en parallèle, les Alliés collaborent étroitement avec la résistance française pour obtenir des renseignements précieux et perturber les lignes de communications ennemies. Des parachutistes sont largués derrière les lignes allemandes pour sécuriser les routes et les ponts stratégiques avant le débarquement. Mais toi, peux-tu nous dire quelles ont été les places stratégiques choisies en France pour débarquer ?
Le 6 juin 1945, l'opération Overlord commence avec l'assaut des plages normandes, qui ont divisé en 5 secteurs. Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Les conditions météorologiques difficiles et la résistance acharnée des troupes allemandes rendent l'opération extrêmement périlleuse, déplaçant plusieurs fois le jour du débarquement du 1er mai 1945 au 1er juin, puis le 6 juin 1944.
Mais dans quel but l'opération Overlord a-t-elle été lancée ?
Cette opération est orchestrée pour créer un deuxième front contre les Allemands en séparant d'une tête de pont afin de prendre les nœuds routiers de Caen et en élargissant la zone par la libération de la Bretagne et des ports de la façade atlantique et d'autre part, avancer jusqu'à une ligne, le Havre, le Mans, Tours.
Quand est-ce que cette opération Overlord a-t-elle pris fin ?
L'opération Overlord a pris fin lorsque les Alliés sont arrivés à Paris le 25 août. Mais les Américains ne voulaient pas s'arrêter là, ils voulaient continuer pour prendre Berlin. Mais les Soviétiques arriveront avant eux, mais ceci est une autre histoire.
Mais as-tu le bilan humain et les chiffres clés de cette bataille ?
Oui. Lors de cette bataille, il y a eu 1213 bateaux de guerre, 736 bateaux de soutien, 864 cargos, 11600 avions, dont le mythique Spitfire, 4126 engins, 20000 véhicules, 156000 soldats et 17000 parachutistes sont déployés en fin de journée du 6 juin 1944. Avec 7 millions d'hommes pour les Alliés et 380 000 hommes pour les Allemands, les pertes sont lourdes. Avec 209 672 hommes de troupes terrestres tués, blessés et disparus, et 16 714 hommes des forces aériennes tués et disparus. Les Alliés subissent de fortes pertes. Mais elles arrivent tout de même à tuer et blesser 200 000 soldats allemands et 200 000 autres soldats allemands sont faits prisonniers. Les pertes matérielles sont aussi nombreuses. Le jour J, avec deux navires de guerre américains, l'USS Corey, un destroyer de l'USS PC-1261, un chasseur de sous-marins, sont tous deux coulés par des mines. 27 avions abattus et 63 endommagés. L'opération Overlord est l'une des grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux soldats et civils y perdront la vie. Cette opération a duré un mois. Cette bataille marquera le début de la libération de la France par les Alliés. Ce débarquement marquera les Français à tout jamais, car sans celui-ci, la France serait peut-être encore occupée par le régime nazi.
Merci à vous, c'était très intéressant. Notre émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes désormais incollables sur la Deuxième Guerre mondiale. Je remercie sincèrement tous les chroniqueurs qui sont intervenus aujourd'hui et j'espère qu'ils vous ont donné l'envie d'aller visiter Londres à votre tour.
See you soon.
Histoire.
Guerre.
Musée. Résistance. Vous écoutez
Voyage à Londres.
Découvrir la Seconde Guerre mondiale.
Sur Radio Campus
93.3.